Voici une question dont la réponse sera une bonne mise en garde pour tous. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont remplis de haine et d'amertume? La parole de Dieu va nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, vous allez entendre des questions dont on a tous besoin des réponses de Dieu. Et je suis certaine que l'enseignement qu'on va recevoir en réponse à ces questions va nous aider à faire des pas de géant dans notre vie. Alors voici les questions. Est-ce que Dieu nous fait des promesses? Est-ce qu'il peut incliner le cœur des rois pour accomplir ses desseins? Vers quoi est-ce que l'arrogance et l'orgueil mènent une personne? Comment peut-on mesurer la valeur d'un homme? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui laissent la haine et l'amertume prendre racine dans leur cœur? Est-ce que Dieu utilise parfois des petites choses pour accomplir ses desseins? Restez des nôtres. Les réponses s'en viennent. On va les entendre dans quelques instants par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est bon de te prier, de savoir que tu nous entends. Que tu aimes qu'on t'adresse la parole, qu'on réalise que tu es là et que tu as les bras ouverts pour nous bénir, qu'on a juste à demander, on va recevoir. Enseigne-nous aujourd'hui, on a besoin de ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, Mardoché s'est présenté revêtu d'un sac à la porte de la maison du roi. Esther lui fait parvenir des vêtements et il les refuse, car il ne veut pas cacher son désarroi. Nous avons comparé cela aux vêtements avec lesquels nous cherchons à cacher notre péché. Nous avons comparé cela aux vêtements éclatants que nous pouvons porter pour cacher notre péché, soit la religion, les réformes, l'éducation. Ce qu'il nous faut, c'est le vêtement justice de Jésus-Christ. Dieu connaît les dangers auxquels fait face son peuple, et il prévoit les coups afin de les protéger. Esther a risqué sa vie pour son peuple. Mais le Seigneur Jésus a fait davantage. Il a donné sa vie en rançon pour nous sauver. Oui, chers amis, voyant notre perdition éternelle, il a agi en notre faveur. Esther s'est présentée devant le roi et il lui tendit son sceptre afin qu'elle ne soit pas exécutée. Nous sommes sous la condamnation de Dieu pour nos péchés, mais lui aussi nous tend le sceptre de sa grâce. Si nous acceptons le Seigneur Jésus comme Sauveur, nous ne serons pas condamnés. Nous devons accepter, par la foi, le salut que Dieu nous propose. Dieu ne nous manifeste pas sa grâce parce que nous sommes beaux et fins. Certains sont peut-être plus beaux que d'autres, de l'extérieur, mais nous avons tous des cœurs méchants par-dessus tout. Dieu tend le sceptre de sa grâce à tous ceux qui acceptent son Fils Jésus-Christ. Esther a invité le roi et Aman à un festin qu'elle a préparé. Chers amis, débutons notre lecture, Esther chapitre 5, verset 5. Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Notez la réaction du roi dans ce verset. Il envoie chercher Aman afin qu'il vienne au festin comme le désire Esther. Le roi fut très généreux avec Aman. Il l'a nommé premier ministre. Il lui a donné son sceau afin qu'il fasse condamner un peuple entier. Cependant, lorsque la reine fait une requête qui concerne Aman, celui-ci doit obtempérer. Elle est la reine. Ceci la place sous un jour favorable. Le roi et Aman viennent au banquet d'Esther. Verset 6. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand serait la moitié du royaume? Tu l'obtiendras. » Esther est nerveuse lors du banquet et le roi perçoit qu'elle est profondément troublée. Il lui demande ce qu'elle désire tout en lui offrant la moitié du royaume. Cette expression idiomatique signifie qu'elle peut avoir tout ce qu'elle désire. Il note qu'Esther est anxieuse, alors il lui fait cette promesse. Dieu nous fait aussi une grande promesse. Nous voyons ici une leçon spirituelle. Dieu, en Jésus-Christ, nous fait une grande promesse. Paul a dit aux Philippiens, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 4, verset 19. Oui, chers amis, Dieu vient de nous donner un chèque signé, mais le montant n'est pas indiqué. Nous avons un roi très généreux. Mais il est plus qu'un roi, il est notre sauveur, il est le sauveur du monde. Il tend le sceptre de sa grâce à un monde perdu. Dieu incline le cœur des rois. Pourquoi est-ce que le roi, si cruel, est-il si généreux et si patient envers Esther? Réponse, Proverbe 21, verset 1er. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Au cours de l'histoire d'Esther, nous voyons Dieu incliner le cœur du roi pour accomplir son dessein. Versets 7 et 8. Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Esther n'a pas encore le courage de faire sa requête au roi. Elle réinvite le roi le lendemain, toujours avec Aman, pour un autre festin. Elle s'engage à donner sa réponse au roi. Nous voyons qu'il y a de la crainte dans le cœur d'Esther. Verset 9. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit, à la porte du roi, Mardoché, qui ne se levait pas, ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Chers amis, l'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Aman sortit tout heureux d'avoir été l'unique invité du roi et de la reine. Sa tête était gonflée d'orgueil. Il plaisa la reine qui l'avait de nouveau invité pour le lendemain. Cet épisode illustre Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Les Grecs avaient aussi un proverbe qui dit quelque chose à cet effet. Les dieux mettent premièrement en colère ceux qu'ils veulent détruire. Et Jacques, dans sa lettre, chapitre 4, versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Alors qu'Aman quittait le banquet, les fonctionnaires se prosternèrent tous, sauf Mardoché. Ce juge refusait toujours de s'incliner devant Aman. Nous croirions qu'un homme dans une position puissante et élevée ignorerait cette peccadille, mais ce ne sera pas le cas. Il est enragé contre Mardoché, mais il se retient dans l'immédiat. « Je te rendrai la monnaie de ta pièce dans quelques jours. » Versets 10 et 11. Il sut néanmoins se contenir, et il alla chez lui. Puis, il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Aman se conduit comme un insensé. Il veut se vanter. Lorsqu'un homme se vante, il parle habituellement de ses richesses et de son excellent salaire. Ensuite, il parle de ses enfants ou de ses petits-enfants, et ensuite il se vante de sa situation ou d'une promotion. Aman s'est vanté dans tous ses domaines. Verset 12. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle, avec le roi. » Les hommes se vantent aussi d'une autre chose, de leur succès auprès des femmes. Il a mangé avec la reine ce midi, et demain, il y retourne. Aman est humain, en plus d'être méchant. Il ne sait pas ce qui l'attend. Il ferait bien de ne pas se rendre au festin, mais il ne déclinerait une telle invitation. Verset 13. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché, le Juif, assis à la porte du roi. Nous mesurons la valeur d'un homme par ce qu'il l'irrite. Il n'y a qu'une chose qui le rende malheureux. Mardoché refuse de se prosterner à son passage. Toutes les bonnes choses qu'il possède ne sont pas suffisantes pour lui faire oublier l'indignité que lui fait subir Mardoché. Quelqu'un a dit que l'on mesure la valeur d'un homme par ce qu'il l'irrite. Si une petite chose l'irrite, c'est un faible. Mes amis, qu'est-ce qui vous énerve? Est-ce des bagatelles? Ne laissez pas des frivolités et des peccadilles assombrir votre vie. C'est une marque de faiblesse. Plusieurs d'entre nous se laissent mettre en colère par des bagatelles. Aman montre qu'il est un faible. Après tout, Mardoché n'était qu'un juge, alors que lui, il était premier ministre. Ignorer Mardoché! Aman n'aurait jamais fait cela. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché le Juif assis à la porte du roi. Voilà ce qu'il mijotait, jour après jour. Verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent, « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Imaginez, sa femme et ses amis lui suggèrent de construire une potence pour y pendre Mardoché. Donc, pendant la soirée et la nuit, des ouvriers érigèrent une potence de 25 mètres environ. Voilà où conduisent la rancune et l'amertume de Aman. C'est avec cette solution qui lui plut qu'Aman alla dormir. Chers amis, la haine et l'amertume détruisent ceux qui en sont remplis. La haine d'Aman va entraîner sa destruction. Dieu ne le laissera pas détruire son peuple. Aman n'est pas le seul personnage biblique qui fut détruit à cause de sa haine et de son amertume. Absalom est un autre exemple. Amon et Absalom étaient les fils du roi David, mais d'une mère différente. Tamar était la sœur d'Absalom. Amon viola Tamar, et le roi ne fit rien à ce sujet. Il se mit en colère, mais sans véritablement sévir contre son fils aîné. Le texte biblique dit ceci. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 Samuel chapitre 13, verset 22. Absalom planifia l'assassinat de son frère, et il réussit à le tuer. Il dut s'exiler, car David était en colère contre lui. Puis, plus tard, David lui permit de revenir d'exil. Cependant, Absalom provoqua une révolte contre son père, afin de monter sur le trône. Finalement, Absalom périt au cours de la guerre civile qu'il provoqua. Un autre personnage qui laissa l'amertume prendre racine dans son cœur, Caïn. Il commit le premier meurtre et dut aussi s'exiler. Mes amis, la haine et l'amertume vous détruisent-elles? Un homme, voulant se venger et nuire à un compagnon de travail, provoqua la faillite de son employeur. Il s'est tiré dans le pied en voulant se venger d'un collègue. Sa haine l'a empêché de prévoir les conséquences de sa vengeance. Avez-vous fait du tort, ou faites-vous du tort à l'œuvre de Dieu, parce que vous avez de l'amertume et de la rancune dans votre cœur à l'égard d'un frère dans le Seigneur? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Citation d'Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Revenons à notre histoire. Esther chapitre 6, verset 1er. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On l'y lut devant le roi. Dieu utilise les petites choses. Le roi ne put pas dormir. Cela semble un fait anodin, mais Dieu utilise les petites choses. D'ailleurs, avec tous les tracas du royaume, le roi ne devait pas en être à sa première nuit d'insomnie. Le roi dut parfois craindre pour sa vie. En fait, les historiens nous disent que Xerxès fut assassiné en 465 avant Jésus-Christ, victime d'intrigues au palais. Mais la nuit d'insomnie du roi qui nous intéresse fut riche en événements. Les événements du livre d'Esther vont maintenant s'enligner dans une autre direction. Avez-vous remarqué que Dieu accomplit souvent ses desseins au moyen de petites choses? De nombreuses années auparavant, en Égypte, Dieu rapprocha le cœur d'une princesse et le cri d'un enfant alors que Moïse flottait sur le Nil. Avec cet incident, il modifia la destinée d'une nation. Un incident qui normalement serait sans importance se produit dans le palais du roi à Suse. Le roi souffre d'insomnie. Alors, il demande à son serviteur d'apporter ses annales et de les lire. Peut-être espérait-il que tous ces procès-verbaux seraient assez ennuyeux pour l'endormir. Donc le serviteur lut les annales au roi. Il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait, puisque les somnifères n'étaient pas encore inventés. Mais l'heure fatidique était arrivée et Dieu passa à l'action. Le serviteur lisait les procès-verbaux d'un ton monotone. Le serviteur tomba sur une certaine page. Tomba? Était-ce un hasard? Non, chers amis. Des petites choses se produisent et le gant des circonstances humaines couvre en fait la main de Dieu. Oui, Dieu est à l'œuvre. C'est lui qui dirige les petits incidents. Esther n'est pas devenue reine par accident. Ce n'est pas par accident qu'elle a proposé sa candidature pour le poste et que le roi l'a préférée aux autres candidates. Ce n'est pas par accident que le roi a accepté l'invitation au banquet. Maintenant, il ne peut pas dormir, et ce n'est pas par hasard que le serviteur lit la page à laquelle il est rendu. Versets 2 et 3. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Térèche, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?»« Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Ces deux hommes étaient des ambitieux, au point de devenir révolutionnaires. Ils ont provoqué un complot contre le roi et Mardochée les avait entendus. Il avertit Esther, qui, elle, avertit son mari. Le procès-verbal des événements fut enregistré dans les annales du roi. La lecture de cet épisode attira l'attention du roi. Le roi se rendit compte que Mardochée n'avait pas été récompensé pour sa fidélité envers le roi. Il fallait pallier cette omission. Quelqu'un qui sauvait la vie du roi méritait une récompense. Alors que ceci se passait dans le palais, quelqu'un frappait à la porte de la cour extérieure. Versets 4 à 6. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre !» Aman entra, et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Aman arriva pendant que le roi découvrait que Mardochée n'avait pas été récompensé. Aman aussi n'avait pas trop bien dormi. Il voulait obtenir l'autorisation de pendre Mardochée, donc il voulait voir le roi très tôt. La potence était prête, il ne manquait que l'autorisation du roi. La position d'Aman lui donnait un accès privilégié au roi. Lorsqu'Aman entra, le roi l'inclut dans la conversation sans préciser de qui il parlait. Il vint demander l'exécution de Mardochée au moment où le roi voulait le récompenser. Nous voyons clairement la providence de Dieu dans ces circonstances. Dans l'ombre, Dieu veille sur les siens. Même si les Juifs, qui ne sont pas retournés dans leur pays, sont hors de la volonté de Dieu, celui-ci les gouverne. Tous ces incidents ne sont pas le fruit du hasard. Lorsque Aman entra en présence du roi, celui-ci lui demanda « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman pensait que le roi parlait de lui. Après tout, n'était-il pas le premier ministre ? Le roi lui avait confié son sceau, et, quoi qu'il ait dû promettre une somme d'argent, il avait obtenu la permission d'exterminer les Juifs. De plus, il ne pouvait pas penser à qui que ce soit d'autre que le roi aurait pu vouloir honorer. Cependant, le roi voulait honorer Mardochée. Versets 7 à 9. Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Pauvre Aman, il est vraiment perplexe, perdu dans toutes ses pensées. Il est enflé d'orgueil. Il a laissé l'amertume avoir le dessus sur son cœur. Ah, l'orgueil! Dieu nous en parle de cet orgueil, entre autres dans 1 Pierre chapitre 4, versets 5 et suivants. « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 4, les versets 5 à 9. Quel avertissement de la part de ce Dieu, de ce grand Dieu, sage, intelligent, qui dit à l'homme, « Non, 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 le chemin de l'orgueil, c'est celui qui mène à la perdition. Celui qui s'élève sera abaissé. » C'est le principe, c'est la loi, une loi universelle, chers amis. Qu'en est-il de toi ? Où en es-tu avec cet orgueil qui empêche d'aller vers Dieu pour l'implorer et pour demander son aide? Tu comptes sur qui, sur quoi, lorsqu'il y a des problèmes dans ta vie, lorsqu'il y a des problèmes à résoudre? Dieu voudrait bien apporter sa solution, voudrait bien te parler. Écoute cette voix de ce Dieu créateur qui veut te conduire là où il y a des choses meilleures pour toi. Il peut te parler à travers la Bible. Alors, si tu veux, pour la prochaine émission, prépare-toi en lisant Esther, chapitre 6, verset 7, à chapitre 7, verset 10.
Merci beaucoup, Régent. Mes amis, quel bel enseignement on a reçu de la part de Dieu aujourd'hui. On a vu la manière dont Dieu s'y prend pour accomplir ses desseins, alors que des gens pleins d'amertume, de haine, d'orgueil et d'arrogance complotent contre les croyants. Quelle sécurité on a quand on est un enfant de Dieu. J'ai bien aimé ce que Régent a dit au sujet des petites choses que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. Il a dit, « Des petites choses se produisent et le gant des circonstances humaines couvre la main de Dieu. » C'est lui qui dirige les petits incidents. Je trouve ça tellement beau. Mon frère, ma sœur, Dieu veille sur nous. Il veille sur nous à chaque instant. Mais souvent, on a besoin qu'il nous le rappelle. Surtout moi. Quand on est dans la souffrance, par exemple, dans l'épreuve, j'ai remarqué que parfois, il me rappelle qu'il est là par sa parole. Je lis un passage biblique qui me donne une réponse ou un encouragement. Parfois, il me le rappelle par un frère ou une sœur dans la foi. Parfois, il me le rappelle par un événement qui se produit. Mais je sais qu'il est toujours là pour me fortifier et pour me protéger contre ceux qui me veulent du mal, pour me donner des solutions au moment opportun. Quel Dieu merveilleux on a! Parfois, je laisse le découragement m'abattre. Et soudain, je lis un passage qui m'encourage et je réalise que j'ai fait de la peine à Dieu, que j'ai péché contre lui en me laissant abattre par mon épreuve. Et je m'en repens, je lui demande pardon et je reçois son pardon. Il n'y a pas longtemps, je traversais une grosse épreuve. Je pleurais dans la nuit et j'ai dit « Seigneur, aide-moi, j'ai besoin que tu m'encourages. » Puis je me suis levée et je suis allée dans mon petit coin de lecture dans mon salon. Et Dieu m'a dirigée vers un passage dans le livre d'Ésaïe. C'est au chapitre 32, verset 20, où il dit « Heureux vous qui partout semez le long des eaux, et qui laissait sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. » Et la référence menait au livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11, verset 1, où il est écrit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Et je me suis mise à pleurer de joie, parce que depuis quelque temps, je supplie Dieu de me donner des âmes, de me donner la joie de faire des disciples dans mon entourage, parmi ma famille, mes amis, mes voisins. Aussi, je lui demande de donner la joie à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir de voir beaucoup de personnes venir à Jésus pour leur salut, par exemple les auditeurs de cette émission. Alors, pendant cette nuit d'insomnie, Dieu m'a dit par sa parole que j'étais sur le point d'avoir une récolte abondante et ça m'a bien encouragée. Merci, Seigneur. Mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que ça t'interpelle quand je dis que je désire voir beaucoup de personnes venir à Jésus pour leur salut? Tu sais, je désire ardemment que tu deviennes un enfant de Dieu. Et Dieu le désire encore plus que moi, parce qu'il est parfait en amour. Il t'aime tellement qu'il a donné celui en qui il avait mis toute son affection, afin que tu puisses avoir la vie éternelle au lieu de périr, au lieu d'aller au châtiment éternel qu'on mérite tous à cause de nos péchés. Oui, Dieu a donné Jésus. Jésus a donné sa vie. Dans le 10e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 17-18, Jésus dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. » Jésus a donné sa vie. Reçois le salut qu'il veut te donner gratuitement.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G-6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.